RCF.
Et à 18h10 sur RCF, il est temps de retrouver le 18-19 en région et c'est avec Jean-Pierre Benoît.
Bonsoir à tous, 18h10, 19h, le magazine régional avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Alors, on peut tout de même vous dire d'entrée de jeu, assez rapidement, mais tout de même, vous mettre en garde, on y reviendra dans notre édition. Neige et verglas, toute la Champagne-Ardenne est en vigilance orange. Météo France prévoit de la neige et des pluies verglaçantes. L'alerte entre en vigueur cette nuit. 18 départements sont placés en vigilance orange et évidemment, tout particulièrement la Haute-Marne, mais cette vigilance vient d'être étendue à toute la Champagne-Ardenne. Météo France prévoit de la neige jusqu'à 10 cm localement, des pluies verglaçantes. Ces précipitations remonteraient vers le nord sur des sols très froids et concernent donc tout particulièrement l'Aube, la Marne et les Ardennes, mais on verra bien, tout ça est à prendre au conditionnel. Le programme de notre magazine ce soir, dans quelques instants, on va retrouver Jean-François Boulanger, notre chroniqueur du lundi. Et puis nous retrouverons le maire, votre maire nous parle ce soir, ce sera bien entendu Denis Bouteville, que nous avons entendu ce matin sur RCF Reims-Ardennes, le maire de Trépaille. Et puis nous reviendrons avec Yann Hureau sur justement la neige et le froid, la météo, et oui, Yoknem, comme dit Yann Hureau dans la buquette, il faut aussi préparer, mais c'est tout de même pas ce qu'on a connu il y a quelques années, des températures de moins 20 ou moins 25. On parlera du parcours alpha du diocèse de Châlons, et puis on parlera de 8e anniversaire de la lecture. Nous reviendrons sur tout cela dans quelques instants. Alors tout de suite, sans plus attendre, eh bien, on prend la direction de Mémoire Chrétienne avec vous, Alexis. Vous êtes ce mardi soir avec Jean-François Boulanger pour une suite d'émissions qui a été entamée la semaine dernière.
Épisode 2 de ce début d'année 2024 avec Jean-François Boulanger, consacré au 15e centenaire du baptême de Clovis. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Nous poursuivons aujourd'hui notre série d'émissions consacrées au 15e centenaire du baptême de Clovis, donc que l'on a entamé la semaine dernière, qui a provoqué la venue de Jean-Paul II à Reims. Vous aviez terminé l'émission en nous parlant d'un courrier confidentiel de Mgr Balland qui lançait la préparation de ce centenaire au début de l'année 90. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? On avait d'ailleurs dit, tout cela mérite un commentaire, vous nous avez dit, je suis un petit peu bavard, ça risquerait de prendre un petit peu plus de temps que prévu.
Voilà. Alors, effectivement, tout commence le 17 février 1990. Ce jour-là, se tient la première réunion préparatoire du 15e centenaire du baptême de Clovis, qui est convoquée par l'archevêque de Reims, Mgr Balland. Elle est confidentielle et elle ne regroupe en dehors de Mgr Balland que trois ecclésiastiques et un historien. Pourquoi cette réunion à cette date? La réponse de Mgr Balland, nous l'avions dit l'autre jour, est triple. Premièrement, une association extérieure au diocèse existe déjà et agit depuis plusieurs années. Deuxièmement, à l'assemblée plénière de l'épiscopat de 1989, il m'a été demandé de prendre des initiatives tant en raison de l'importance de l'événement que des exploitations récupération évitées. Troisièmement, la célébration juste de cet événement est difficile et beaucoup d'esprits y sont peu préparés. Il convient de trouver une bonne perspective et de la promouvoir.
Vous savez, Jean-François, avec vous, c'est parfait, c'est comme dans les séries, il y a les épisodes qui se suivent. Quand on débute un nouvel épisode, on a le résumé de l'épisode précédent. Vous nous aviez donc promis un commentaire, l'heure est désormais venue de le faire. La suite, nos auditeurs veulent le savoir.
Alors, je commencerai par l'expression « beaucoup d'esprits, ils sont peu préparés ». Pourquoi ? Ils sont-ils peu préparés ? Parce que cette célébration semble aller à rebours de l'évolution du diocèse depuis un siècle. Le diocèse a été marqué par le catholicisme social et en 1987, au moment où tout commence, dans des circonstances sur lesquelles nous allons revenir, le diocèse vient de perdre Mgr Béjot, évêque auxiliaire, dont le nom reste associé à la JOC. Le diocèse de Reims, par ailleurs, consacre l'année 1991 à la solidarité. Et en 1992, au moment où la préparation du centenaire commence officiellement, à l'occasion de la fête de la Saint-Remi, on se prépare à une autre célébration, celle du centenaire de l'encyclique Rerum Novarum, qui est considérée comme le moment fondateur du catholicisme social. Et j'ajouterais que dans ce contexte général, marqué par le catholicisme social, on l'a vu la dernière fois, la manière de fêter Saint-Remi a évolué.
Le texte que vous avez cité parle d'une association extérieure au diocèse qui existe déjà et agit depuis plusieurs années. De quoi s'agit-il ?
Alors, justement, il s'agit de l'association pour le 15e centenaire de la France qui a été fondée à Rouen, donc le 3 novembre 1986. Pour les fondateurs du groupe, la France des années 1980 est marquée par un regain catholique qui débute avec le premier voyage de Jean-Paul II en France, et ils interprètent les manifestations de 1984 en faveur de l'enseignement privé comme un signe révélateur de ce mouvement. Le levain soulève la pâte. Les cortèges de Paris et de Versailles, de ces manifestations pour l'école privée, sont, je cite, les majestueuses retrouvailles de ce peuple de France avec ses saints. Dès lors, il faut se préparer à renouveler les promesses faites lors du baptême de Clovis, conçu comme celui d'une France, dont la vocation est de défendre l'Église et le Saint-Père. Et cette préparation va consister pour l'association en une neuvaine d'années préparatoires qui commence en 1987. Cette année-là, une première nuit de prière a lieu à la basilique Saint-Remi de Reims à l'occasion des fêtes de son saint patron.
Comment le diocèse de Reims a-t-il réagi à cette initiative, Jean-François Boulanger ?
Il fait silence. Le bulletin diocèse 1 n'en parle pas et rien n'interfère avec la fête traditionnelle de Saint-Remi, même si les dates coïncident. Mais à la fin de l'année 1990, Mgr Balland annonce aux responsables de l'association pour le 15e centenaire qu'il ne sera désormais plus possible de l'accueillir à Saint-Remi comme cela se fait chaque année au moment de la Saint-Remi, parce que, dit-il, un comité diocésain vient d'être créé. Et c'est une des conséquences, justement, de cette réunion dont nous parlions au départ, du 17 février 1990. Je cite Mgr Balland, « Ces dispositions nouvelles excluent que nous puissions vous accueillir dans les mêmes conditions que les années précédentes. Elles permettent néanmoins aux membres de votre association qui le désirent de participer à cette veillée, la veillée diocésaine. Dans ce cas, cependant, il devra être clairement et préalablement convenu, d'une part, que le caractère diocésain de cette veillée sera annoncé et bien sûr respecté par les participants, et d'autre part, que votre association s'abstiendra de toute vente ou distribution de documents ou de tracts à cette occasion. Donc c'est une séparation à l'amiable. D'ailleurs, l'association pour le 15e centenaire de la France va poursuivre sa neuvaine dans d'autres sanctuaires catholiques prestigieux, Lisieux par exemple, mais toujours avec l'autorisation de la hiérarchie.
Un dernier élément peut-être à commenter de ce texte, Mgr Balland évoque des exploitations ou récupérations à éviter. Là aussi, ça mérite d'en dire un petit peu plus, Jean-François.
Alors, Mgr Balland rappelle que ça a déjà été le cas en 1896 et que le cardinal Langeneux avait à l'époque refusé explicitement plusieurs avances de groupes royalistes parce que c'était un événement religieux. Mais il ajoute, pour nous, donc en 1996, c'est plutôt l'extrême droite et l'intégrisme qui risquent de poser problème.
C'est-à-dire ?
Alors, Mgr Balland avait vu juste parce que des comités plus ou moins explicitement politiques vont apparaître un peu plus tard. Parmi eux, il y a le comité Clovis. Pour ce comité, c'est la rencontre de la force franque et de la foi catholique qui donne naissance à la France. Mais, dit-il, aujourd'hui, 15 siècles après le baptême de Reims, la France se défait bien plus vite qu'elle n'a été construite. Alors, qui trouve-t-on dans la direction de ce comité ? Eh bien, des responsables importants du Front National, Bernard Anthony, connu aussi sous le nom de Romain Marie, Bruno Gollnisch, numéro 2 du parti, Roger Olyndre et Karl Lang. Et le comité Clovis, d'ailleurs, organise un meeting à la Mutualité le 13 avril 1996, en présence de 1500 personnes. Et Jean-Marie Le Pen prend la parole pour opposer la France du passé, celle des héros et des martyrs, à celle du moment, celle des copains et des coquins. Et le passage de l'une à l'autre aurait eu lieu, selon lui, pendant la Révolution française, considérée comme antichrétienne et, je cite toujours, ourdie par les sociétés maçonniques. Ajoutons qu'après le meeting, les participants se retrouvent pour une messe devant le Panthéon. Rappelons que le Panthéon avait été jadis une église dédiée à Sainte-Geneviève que la Révolution avait pris à l'église. Et d'ailleurs, la carte d'adhérent du Front National pour l'année 1996 est à l'effigie de Clovis.
Est-ce le seul comité d'extrême droite ?
Non, il y a un autre comité qui s'appelle l'Association 496, qui est animé par Michel Fromentou, directeur de l'Institut d'Action Française, autrement dit royaliste. Son but, je cite, « un retour à l'inchrétienté, proposé aujourd'hui comme un remède aux maux auxquels nous cherchons une solution. Pour l'Association 496, la France serait créée, je cite, « contre une sorte d'échafaudage européiste avant la lettre », voulu par les Visigoths et les Ostrogoths qui souhaitaient créer une Gothie de sorte de super état arien.
Quelle parade à ces tentatives de récupération l'Église va-t-elle opposer alors ?
Alors, c'est un vaste sujet, et vous me dites ça à un moment où l'émission se termine. Donc vous aurez compris que on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est le sujet de cette première réunion que j'évoquais en début d'émission, et de bien d'autres qui suivront, et ce sera le sujet de notre prochaine émission.
Fabrice me dit dans l'oreillette, Jean-François, que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette année 2024 et que c'est bien si vous continuez de vous y tenir tout au long de ces 12 prochains mois. À très bientôt, Jean-François.
Vous savez que c'est très difficile de tenir ces résolutions.
À très bientôt, Jean-François.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
À presque 18h21 en direct sur RCF Reims-Ardennes avec RCF Cœur de Champagne, je vous propose de retrouver notre maire du jour. Il s'agit aujourd'hui de Denis Bouteville. Il est maire de Trépaille dans le département de la Marne. Denis Bouteville, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Denoin.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est l'occasion, monsieur le maire, de découvrir la commune de Trépaille, de présenter un peu Trépaille, combien d'habitants, quel type d'habitants votre commune a aujourd'hui, monsieur le maire.
Alors actuellement, et aux tout derniers chiffres qui nous sont fournis comme chaque année, en fin d'année, et qui servent à l'établissement des dotations, la commune de Trépaille a 447 habitants. C'est une commune totalement enclavée entre vignes et forêts, puisque sur trois de nos côtés, ce sont les vignes, et nous en avons d'ailleurs en intramuros, et sur le quatrième côté, la forêt de la montagne de Reims.
Ah bah c'est une bien belle commune, on imagine, hein, les vignes et la forêt. Que demander de plus, monsieur le maire ?
Rien de plus. Le cadre de vie est magnifique et excellent.
Alors, on imagine que dans cette population des habitants de Trépaille, comment s'appellent les habitants de Trépaille, monsieur le maire ?
Alors, ils se nomment les Trépaillottes et les Trépaillots.
Les Trépaillottes et les Trépaillots, eh bien, elles sont vigneronnes, vignerons, viticultrices, viticulteurs. On imagine qu'il y en a quand même quelques-uns.
Ah, tout à fait, c'est la majeure partie des habitants de la commune, hein, puisque, comme vous l'avez déjà compris, la spécificité première de la commune, c'est effectivement la viticulture.
Et beaucoup travaillent à la vigne, autour de la vigne, ça fait travailler quand même des personnes, tout cela. C'est quand même, le cœur battant économique de la commune.
Tout à fait. Hormis les personnes qui aujourd'hui sont à la retraite, c'est à peu près 80, voire un peu plus de 80% de la population de la commune qui travaille localement, sur place, pour ne pas dire sur place.
Alors vous, Denis Bouteville, monsieur le maire, est-ce que vous êtes maire depuis plusieurs années déjà, ou est-ce que c'est votre premier, deuxième, troisième mandat? Où en êtes-vous exactement, monsieur le maire?
Alors, en ce qui me concerne, j'en suis actuellement à mon deuxième mandat, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2014. Sachant qu'en amont, j'avais déjà fait un premier mandat en tant que conseiller.
Alors, beaucoup de maires qu'on interroge sur notre antenne régulièrement, tous les jours d'ailleurs, nous disent souvent, pour certains d'entre eux, que c'est quand même beaucoup de travail, plus qu'on ne le pense de l'extérieur. Quelqu'un qui fait bien son travail de maire, ben, il est quand même sous pression, sous tension, les réunions, les rencontres, les interpellations, toujours quelque chose à demander, parce que vous êtes à portée de demande.
Je ne vous le fais pas dire, aujourd'hui, pour être maire, pratiquement, si véritablement on veut se donner pour sa commune, pratiquement il faut être en retraite. Ça prend énormément de temps, que ce soit au niveau des charges administratives, tout comme vous l'avez dit, pour les réunions, j'en passe et des meilleurs.
Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est au travail, il ne peut fixer des réunions que le soir ou très tôt le matin. Mais vous-même, vous êtes un retraité, monsieur Bouteville ?
Oui. J'ai la chance, puisque c'est une chance aussi, d'être à la retraite, ce qui me permet de de me donner à fond au profit de ma commune.
Et puis sans stresser, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs maires qui ont des activités professionnelles et qui disent on va devoir arrêter de ne pas se représenter la fois prochaine parce qu'on n'arrive plus. Et même voilà. Au niveau du travail, c'est des gens qui sont artisans, qui sont partis, etc. C'est quand même très compliqué. Et puis c'est très fatigant parce que les réunions du soir qui succèdent tous les jours parce qu'on n'est pas là en journée. Et alors parmi les projets, est-ce qu'il y a actuellement, monsieur le maire, un ou deux projets qui vous tiennent particulièrement à cœur?
Ah oui, il y en a même un peu plus que ça. La commune a perdu ses deux classes de maternelle en juillet 2022, c'est une volonté du conseil et nous nous sommes regroupés avec une quatrième commune Petite Loge. Donc de ce fait, il y a tout un bâtiment de plus de 800 mètres carrés datant de la période Napoléon III, 1870 pour être précis, qui est à réhabiliter. Et une réhabilitation d'un bâtiment de genre, ça ne se fait pas comme ça, d'un simple claquement de doigts. Les écoles avaient la chance d'avoir de très grandes cours de récréation et actuellement, nous sommes en train de travailler un partenariat avec Reims Habitat pour de la construction, pour y ramener un peu sur trépaille du locatif, compte tenu du fait que nous sommes totalement enclavés.
Alors c'est vrai que ça aussi, ça permettrait la venue d'une population nouvelle, enfin de quelques habitants supplémentaires. C'est important pour les communes de retrouver aussi des nouvelles personnes qui sont des nouveaux habitants de la commune.
Bien sûr, et notre espoir c'est de faire venir sur la commune des jeunes, sachant qu'une des difficultés que nous avons, c'est que globalement, une petite partie de nos jeunes sont obligés d'aller voir dans d'autres communes pour y résider parce qu'il n'y a rien de disponible sur Trépaille. Ces jeunes reviennent malheureusement lorsqu'il y a décès dans la famille, grands-parents, parents, et très souvent reprennent la maison d'habitation. Mais ce n'est pas au quotidien et heureusement.
Mais c'est vrai que ça peut donner un nouveau souffle. Et puis peut-être aussi, mais alors à ce moment-là, s'il n'y a plus d'école, si ça tombe, il faudra en ouvrir des classes de maternelle, monsieur le maire. Je dis ça avec de l'humour.
Non, il n'y aura pas de réouverture. En fait, en jeunesse très rapide, nous étions déjà sur un regroupement scolaire de trois communes, Bille, Bonne-Manche, Trépaille, les maternelles à Trépaille et les primaires à Bonne-Manche. Nous avions tellement peu d'enfants que nous avions fini par avoir une épée Damoclès au-dessus de nos têtes, à savoir, d'un côté comme de l'autre, fermeture d'une classe. Donc nous avons préféré rechercher une quatrième commune pour augmenter le nombre d'enfants et leur permettre d'avoir un enseignement en un peu plus correct. Ce qui n'aurait pas été le cas si nous étions restés avec une seule classe de maternelle qui, elle, aurait été à 2, 3, voire peut-être 4 niveaux.
Alors évidemment, ce que je vous propose, monsieur Bouteville, parce que le temps passe très vite, c'est qu'on se retrouve pour peut-être d'autres émissions, même en dehors de l'émission, votre maire nous parle. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre projet, l'embellissement de la commune, les fleurs, je ne sais pas, quelque chose? Parce que le cadre de vie compte beaucoup. Et dans les villes de vignobles, je sais que les viticultrices et viticulteurs, ils savent parfois bien arranger quand même leur maison. Hein, c'est en général pas mal.
Oui. Alors, c'est là un sujet je n'ai même pas la peine d'aborder, puisque nous sommes en recherche permanente d'améliorer le cadre de vie de la commune. J'ai toute une petite équipe qui travaille en ce sens, et venez à partir du mois de juillet sur Trépaille, vous y verrez un village totalement fleuri. Et en dehors de ces fleurs d'ailleurs, il faut savoir que sur Trépaille, il y a bon nombre de chemins de randonnée, tel le chemin des loges, l'escapade dans Trépaille qui permet de découvrir l'architecture de la commune, des sentiers dans les bois, sentiers pédagogiques et bien d'autres encore, promenades de réalisables fléchées sur la commune. Il faut venir nous voir.
Ah ben écoutez, là, on lance cet appel. Moi-même, j'ai dû passer une ou deux fois à Trépaille, mais je vais faire cet effort parce que redécouvrir ces communes qui font des efforts exceptionnels et puis profiter de la découverte de ces vignes, de ces forêts et de ces villages auxquels on est particulièrement attaché. Monsieur le maire, on le refera encore sur notre antenne, on viendra vous voir, et puis pourquoi pas d'ailleurs faire une émission, qui sait, même depuis votre mairie, une émission, ça serait pas mal ça d'ailleurs. Au niveau informatique, est-ce que ça passe bien l'internet chez vous?
Alors, la commune est intégralement fibrée depuis 3 ans maintenant. Quand le réseau Orange n'est pas en panne, ça passerait bien. Et je veux juste ramener une petite précision. Trépaille était également une des communes du parc naturel régional de la montagne de Reims.
Ah,
nous sommes
préciser.
D'ailleurs une des toutes premières communes à avoir adhéré à la charte lors de la création du parc naturel.
On aura l'occasion d'en parler, Denis Boudeville, maire de Trépaille. Merci en tout cas d'avoir été avec vous. On vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci Jean-Pierre, au revoir et puis bien au plaisir de se retrouver. Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Eh bien, il est 18h30, presque 18h31. Je vous propose de retrouver tout de suite le journal régional du 18-19. Neige et verglas, toute la Champagne-Ardenne en vigilance orange. Météo France prévoit de la neige et des pluies verglaçantes. L'alerte entre en vigueur dès cette nuit. On en reparle dans notre édition. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le démarrage, c'est demain. Un peu partout dans les diocèses, on en parle. Ce sera le cas demain, mercredi 17 janvier à 20h au Temple de l'Église protestante unie de France, boulevard Lundy à Reims, mais aussi à Châlons-en-Champagne. On y reviendra. Et puis l'actualité, c'est aussi à Châlons, Domitis, le numéro 1 des résidences-services seniors en France, qui est membre du groupe AG2R La Mondiale, et l'a inauguré vendredi la résidence La Clé des Arts. Et puis les biodéchets dans la poubelle noire, c'est fini. Depuis le 1er janvier, les collectivités ont pour obligation de passer au compostage. Pour cela, ils sont accompagnés. Illustration avec le syndicat mixte de gestion des déchets ardennais.
RCF, le journal, Jean-Pierre Benoît.
Sans faire dans le catastrophisme, d'ailleurs on retrouvera Yann Huro qui évoquera avec humour la neige et le froid, puisque on a connu dans notre région, et en particulier dans le département des Ardennes, des températures qui descendaient à moins 20, moins 25, on se rappelle pour les plus anciens du fameux hiver 1956, aussi dans le département des Ardennes, mais c'était il y a très longtemps, et aujourd'hui les températures pourtant vont baisser cette nuit, et la Champagne-Ardenne est placée en vigilance orange. Météo France prévoit de la neige et des pluies verglaçantes. L'alerte entre en vigueur cette nuit. 18 départements en vigilance orange en France, mais tout particulièrement en Haute-Marne. Cette vigilance est étendue demain à toute la Champagne-Ardenne. Et Météo France prévoit de la neige jusqu'à 10 cm localement et des pluies verglaçantes. Des précipitations verglaçantes vont remonter vers le nord et sur des sols très froids, ça pourrait effectivement donner du verglas, en particulier dans la Marne, l'Aube et le département des Ardennes. Ce sont bien entendu des prévisions, tout est à prendre au conditionnel, mais il faut mieux prévenir que guérir. D'ailleurs, l'Université de Reims a demandé aux étudiants de rester chez eux s'ils avaient des difficultés de transport et que des visios, des vidéoconférences allaient être mises en place. On peut noter également que demain, c'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ce sont les chrétiens du Burkina Faso qui ont choisi le thème de cette semaine de prière pour l'unité, qui va donc démarrer à partir du 18 jusqu'au 25 janvier. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même », c'est le thème de cette semaine, chapitre 10 et 27 de Luc. Et il faut noter que dans le diocèse de Reims en tout cas, il y aura demain à 20h au Temple de l'Église protestante unie de France, boulevard Lundy, un rassemblement entre catholiques, protestants, orthodoxes réunis dans une même prière. L'actualité, c'est aussi à Châlons, en Champagne, l'inauguration vendredi dernier d'une maison de résidence service senior en présence de la députée de la Marne, Lise Vanier. Domitis a inauguré vendredi sa dernière résidence qui s'appelle La Clé des Arts. C'est à Châlons en Champagne, un univers où bien sûr l'art, le confort et la communauté se rencontrent pour créer une expérience de vie pour les seniors. Valérie Simon, directrice de la résidence locale.
La Clé des Arts, une résidence service senior qui a pour objectif en fait d'être un lieu de vie des seniors, j'ai de plus de 65 ans, de pouvoir leur proposer à la fois ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire de la sécurité dans un environnement convivial où ils peuvent agir et faire des activités en toute autonomie et rester à la fois autonomes dans leur appartement et pouvoir, quand ils le souhaitent, partager des moments conviviaux. On a un restaurant, un bar, un salon télévision, lecture, une salle de sport, salon bien-être avec un lit hydromassant, un salon de coiffure et une piscine. Alors nous avons 110 appartements, donc on peut accueillir au moins 110 personnes, puisque c'est des appartements du T1 au T3.
Propos recueillis par Christopher Fausten pour RCF Cœur de Champagne. À noter que Domitis est implanté dans plusieurs communes de Champagne-Ardenne, notamment Vitry-le-François, Besanne, Reims et tout prochainement du côté de Troyes. Dans l'actualité aussi, les biodéchets sont à la une, puisque depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets est généralisé et concerne tous les professionnels et particuliers.
En effet, les biodéchets, autrement dit les déchets organiques produits par les activités humaines, animales et végétales, représentent 30% des ordures ménagères. Pour accompagner ce changement, le syndicat mixte de gestion des déchets ardennais Valodea soutient les collectivités locales. Il vient même de lancer une campagne pour sensibiliser l'ensemble de la population. Les biodéchets sont des ressources, ne le jetons plus dans la poubelle noire, rendons-les au sol. Si jusqu'alors 70% des Ardennais triaient déjà de la sorte, il faut maintenant changer les habitudes des 30% restants, alors que Virginie Druard, responsable du pôle prévention et communication chez Valodea, le dit sans détour, il n'y a pas que des avantages à passer au compostage.
Non, il n'y a pas que des avantages, c'est comme tout nouveau geste de tri, il y aura forcément quelque part finalement un effort à fournir parce qu'il va falloir trier. Mais de l'autre côté, au niveau de l'avantage, on récupère un amendement organique qui derrière est utilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on sait aussi ce qu'on va mettre dans notre compost, donc ça veut dire que derrière on sait aussi la qualité de ce qu'on va récupérer. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme le prix des emballages, à un moment on va aussi demander à ce que les gens fassent un effort parce que c'est la qualité du tri qui donnera la qualité du compost. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que toute la mise en place d'un service de gestion des déchets, ça a un coût. Donc, ça veut dire que si on mettait en place aussi des collectes en porte-à-porte ou en apport volontaire généralisé partout en France, ça aurait forcément un coût très important. Donc, je ne dis pas que le compostage n'aura pas de coût parce que des composteurs, ça a un coût aussi. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on partage ce coût. C'est-à-dire que la collectivité, dans les Ardennes, c'est le cas pour l'ensemble des collectivités, elles aident à financer les composteurs, hein, on les achète à peu près à entre 50 et 80% moins cher que dans le commerce grâce aux aides des collectivités. Et l'idée, c'est que de l'autre côté, le ménage fasse l'effort de le trier et de sortir des ordures ménagères. Finalement, cet or noir, comme on dit, parce que ça a vraiment un intérêt agronomique.
À noter qu'en ville ou à la campagne, l'adaptation n'est pas la même. Explication.
Il va forcément y avoir des contraintes. C'est le même problème qu'avec le tri des emballages. Finalement, on a des soucis de place dans des habitats, on va dire, verticaux, que ce soit en copropriété ou en immeuble. Mais évidemment, il y a des solutions. Donc l'idée, ça va être vraiment de travailler avec eux sur toutes les solutions qu'on peut mettre en place et de s'adapter. Donc on va composter en tas, je vous l'expliquais, dans un très grand jardin, en bac quand on a un jardin plus petit. Si on n'a pas de jardin, on peut composter en fait dans un lombricomposteur ou on peut décider aussi collectivement de mettre en place un bac de compostage en fait en pied d'immeuble. Ça permet aussi de créer du lien social.
Pour bien démarrer le compostage, tous les bons conseils sont à retrouver sur le site valodea.fr ou sur les réseaux sociaux de Valodea. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions. C'est la fin du journal. Tout de suite, le magazine se poursuit.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
On parle neige et froid avec Météo France, mais bien entendu, on peut en parler avec la Bequette de l'Ardennais. Yannick Huro, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors tous nos vœux, Yannick, tous nos vœux de bonne année pour 2024. On n'a pas eu l'occasion encore de vous retrouver le matin sur RCF en ce mardi matin. Alors quels sont vos vœux, vous, Yannick Huro?
Ben écoutez, d'abord, je vous souhaite à vous et à tous vos auditeurs bonne chance sur le chemin pentu de 2024, des vœux de quiétude, de sérénité et surtout de santé, bien entendu, je connais la question. Et puis, que voulez-vous, en espérant que, sinon tous, au moins une partie s'exauce.
Yanni, on vous connaît, tous ceux qui vous connaissent dans les Ardennes, on ne vous présente plus. Dans la Marne aussi, tout le monde vous connaît. Et bon, non seulement les livres, mais bien entendu, la bequette quotidienne dans le journal l'Ardennais. Alors, en ce moment, vous parlez du froid. Alors, c'est vrai que, bon, le froid en hiver, c'est quand même pas surprenant, Yanni Huro.
Mais écoutez, c'est bien ce que je dis dans la bequette de... Aujourd'hui, effectivement, on en fait un événement, on annonce un cataclysme parce qu'il fait moins 3, moins 4, et si vous permettez, bon, je suis certain vieil homme, mais quand dans ma jeunesse, le 1 moins 20 en hiver était classique, le 30 cm de neige était parfois une évidence, et je me souviens très bien quand on allait à l'école en culotte courte, s'il vous plaît. Il y avait beaucoup de neige, on n'en faisait pas un drame, mais maintenant, que voulez-vous, nous sommes devenus douillets, il faut que tout le monde se plie à nos exigences, y compris la nature, qui d'ailleurs s'en fiche. Enfin, cela dit, il y a quand même la neige cette année, surtout en ce début d'année, c'est la première neige, et ensuite, il faut bien reconnaître que deux hivers de suite, nous n'avons pas eu de neige, c'est donc quelque part un événement, mais qu'il faut ramener, si j'ose dire, à de justes proportions, tout en espérant, bien entendu, que la neige qu'on annonce, je crois, dans les jours à venir, qui va s'amplifier, ne gêne pas trop la circulation, ne provoque pas d'accident, bien entendu. Ce matin, nous avons eu de la neige à Gesponsard, dans la vallée. Il paraît que dans ce que nous nommons les hauts, c'est-à-dire le plateau, il y en avait plus en abondance, mais chez nous, elle a cessé de tomber dans l'après-midi. Alors, espérons qu'il y en aura demain. Et puis qu'au moins les enfants pourront faire de la luge mercredi.
Alors c'est l'objet bien sûr de votre bequette dans l'Ardennais.
Mon cher ami, c'est l'actualité.
Hein, bien sûr. Et puis ce qu'il faut bien marquer aussi, justement, dans la bequette de l'Ardennais que vous faites tous les jours, bon évidemment, vous parlez parfois des politiques qui ont des sobriquets, hein, on en a déjà parlé sur notre antenne, mais souvent, j'ai remarqué que c'est Yanni Huro, le poète, qui apparaissait. Souvent, quand vient le printemps, on voit apparaître des fleurs à travers, voilà, ça annonce le printemps. Oui. Vous aimez la nature, vous aimez examiner, observer cette nature.
Dire que je suis poète, c'est un bien grand mot, mais si vous voulez, comme tout Ardennais, hein, nous vivons dans la forêt. La forêt nous habite, donc forcément ça amène un regard particulier et forcément, comme vous venez de le dire, ça nous force à avoir un peu une âme de poète dans le sens où on a une sensibilité envers la nature qui nous cerne, qui nous berce et c'est ainsi. Maintenant, effectivement, et j'y fais allusion dans la bequette aujourd'hui, rituellement, vous savez, ça fait 30 ans que je fais la bequette, et presque tous les ans, je crois même tous les ans, en janvier, j'annonce, je guette, j'épie dans mon jardin la fleur qui me touche le plus et dont j'aurai sans doute l'occasion de vous reparler, et qui est le perce-neige ou la perce-neige. C'est une fleur qui n'en finira jamais de m'émouvoir par sa fragilité, par sa façon aussi toute symbolique de braver la neige et d'annoncer le printemps. C'est pour ça que dans la bequette, j'appelle des perce-neige mes petites chéries. Et vous savez, tous les ans, il y a des lecteurs qui m'en envoient en photo ou même qui m'en envoient par la poste. Je trouve ça toujours très émouvant. Et ça change d'une actualité, vous en conviendrez, qui parfois est nettement moins poétique.
Parmi les lecteurs de l'Ardennais, il y a ceux qui achètent le journal tous les jours, le journal papier, il y a ceux qui regardent l'Ardennais sur Internet, mais il y a aussi des gens, et on en voit dans le courrier des lecteurs, quand le dimanche on l'évoque, des gens du j'allais pas dire du bout du monde, mais presque, qui continuent de lire la bequette, qui sont des Ardennais expatriés, et puis qui vous lisent, Yanni.
Oui, c'est un lien. Vous savez, la bequette, c'est quelque chose de particulier, hein, c'est quelque chose de fondamentalement ardennais. Et effectivement, la diaspora, ceux qui sont partis, les Ardennais qui sont partis, grâce à la technique d'aujourd'hui, peuvent le lire. si vous voulez, une anecdote qui m'a toujours sidéré. J'ai un de mes lecteurs qui est pilote d'essai, qui va dans le monde entier tester des avions pour ATR à Toulouse. Eh bien, quelquefois, il m'envoie, comment dit-on, un SMS ou bien un mail. Il m'envoie ça de Chine, m'envoie ça du bout du monde pour me dire « Ah, je viens lire la buquette d'aujourd'hui, comme elle est belle, ça me rappelle le pays, merci beaucoup, continuez. » Tout ça sans aller jusqu'à un lecteur aussi exceptionnel que lui. Tout ça amène un lien particulier qui fait que malgré mon grand âge, je continue et qu'il faudra bien que j'arrête, parce que c'est quelque part un peu, si vous voulez, Jean-Pierre Benoît, et c'est ce que je disais à Monseigneur l'archevêque de Reims, quand il est venu, il m'a fait l'honneur de venir à la maison et de parler de la buquette. Je lui disais quelque part, la buquette, c'est pas moi qui l'écris, ce sont les gens qui l'écrivent. Il y a une sorte de communion, de correspondance, de symbiose entre le lectorat et moi-même. Vous savez, on m'a renseigné, c'est moi qui ai le premier annoncé, que l'on a dérobé l'âne de la crèche de la basilique de Mézières, ce qui, bien sûr, en soi, est incroyablement scandaleux. Bon, espérons, puisqu'il y a de la neige, que peut-être on arrivera à retrouver
ses
pas dans la neige et retrouver l'auteur du délit. Bon, ça s'arrangera.
Merci Yann Hureau et très bonne soirée.
Le 18-19 sur RCF.
L'espace missionnaire Chalon et Champagne Sud propose à tous ceux qui le souhaitent et qui s'intéressent à la spiritualité un cycle de rencontres sur 12 semaines pour nous en parler, dont Antonin Dichamp au micro de Christopher Fausten.
Don Antonin, bonjour.
Bonjour Christopher, merci de nous recevoir.
Merci d'être avec nous, prêtre à l'espace missionnaire Chalon et Champagne Sud. Très bonne année à vous.
Merci, vous aussi, plein de bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne tout au long de cette année.
Merci beaucoup, on va revenir donc sur ce parcours Alpha lancé il y a déjà 15 ans du côté de Chalon-Champagne qui va faire donc son retour cette année dans les prochains jours. Le parcours Alpha, en quoi consiste ce rendez-vous?
C'est une formule assez simple et belle, c'est basé sur la convivialité, c'est d'abord un repas qui est partagé. Il y a un temps d'enseignement qui est assez court sur vraiment des fondamentaux de la foi et après c'est de l'échange. Et le principe c'est que chacun peut s'exprimer librement sur le thème du jour.
À qui c'est destiné?
C'est destiné à tous, il n'y a pas de critères, chacun peut venir comme il est, il n'y a pas d'âge, c'est gratuit, c'est vraiment ouvert à tous.
Donc ça a été lancé il y a 15 ans du côté de Chalon-Champagne, ça s'est arrêté, pour quelle raison?
Ça s'était arrêté, ça avait fait son temps.
Oui.
Et puis là, on s'est dit, en fait, aujourd'hui, c'est nécessaire, il faut qu'on le relance. Parfois, il y a des choses comme ça, c'est bien que ça puisse recommencer.
Voilà, repartir sur de bonnes bases. Et donc, vous avez d'ailleurs fait, il y a quelques semaines de cela, une réunion d'organisation avec l'équipe interne, si j'ai envie de dire, pour la préparation.
Même plusieurs, il y a tout un groupe de paroissiens qui se sont engagés pour pouvoir relancer ce parcours Alpha. Ils se sont réunis à de nombreuses reprises et ils continuent de le faire. La semaine prochaine, il y aura encore une réunion de préparation, de formation pour accompagner ce groupe.
Alors, la première date de ce parcours Alpha du côté du diocèse de Chalon, en tout cas de l'espace missionnaire Chalon et Champagne Sud, c'est le 29 janvier. Comment va s'organiser justement ces différents rendez-vous? Si on prend par exemple la prochaine date, le 29 janvier, quel est le thème? Comment ça va s'organiser?
Alors, c'est en soirée, c'est toujours le lundi soir.
D'accord.
C'est de 20h à 22h. Voilà, on essaie de bien tenir la montre, de ne pas se coucher trop tard. Et vous avez des thèmes qui sont prédéfinis. Premier, par exemple, c'est « Qui est Jésus ?». Donc, il y aura un petit enseignement. Les gens arrivent, petit enseignement sur « Qui est Jésus ?». Et ensuite, on dîne ensemble et il y a le temps d'échange.
Donc, il y a la discussion, il y a un moment convivial. On le disait tout à l'heure dans la présentation, dans Antonin. Il y a un moment quand même où il y a des échanges qui se font entre les participants, les invités.
C'est le cœur du projet. C'est vraiment la convivialité, le fait de partager un repas et de pouvoir échanger librement sur les grands thèmes de la foi.
Temps de réflexion, temps d'échange, temps de prière?
Il n'y a pas explicitement de prière. C'est vraiment de l'échange, de la convivialité. Et l'idée, c'est qu'on puisse parler de ces choses dont on parle finalement assez peu. Par exemple, qui est Jésus? C'est C'est pas quelque chose dont on parle dans son travail, c'est pas quelque chose dont on entend parler à l'université, voilà. Et de pouvoir enfin parler de ces grands sujets.
Dans Antonin, donc, ce parcours Alpha fait son retour du côté de Chalon, à l'espace missionnaire Chalon et Champagne Sud. Ça a été une volonté, c'est quelque chose que vous avez entendu autour de vous par les paroissiens, justement, le fait qu'il faut retrouver ce genre de parcours Alpha, ce genre de temps d'échange.
Alors comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un projet qui a existé il y a plusieurs années, et effectivement il y avait des paroissiens qui regrettaient que ça se soit arrêté. Donc c'est la première source. Et puis nous, comme prêtres, on s'était aussi dit, on est impressionné par le nombre de personnes qui, après le confinement, se posent des questions. Aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent à l'église, et le parcours Alpha peut aider pour les gens qui aujourd'hui se posent des questions et veulent redécouvrir découvrir la foi chrétienne.
Donc le prochain thème pour cette première date, 29 janvier, qui est Jésus. Et donc chaque rendez-vous, toutes les semaines, tous les lundis, quasiment, on retrouvera un thème différent.
Alors c'est une formule, effectivement, où on s'engage. Il y a 10 rencontres sur un lundi. Donc si on se lance pour 2 mois et demi, hein, c'est assez sérieux. C'est toutes les semaines, 20h, 22h. Et puis on avance, et il y aura même une journée, le samedi 24 février, une journée partagée tous ensemble.
Donc c'est rendez-vous à ne pas manquer du côté de Chalon-Champagne. Où exactement?
Ça sera sur l'église Sainte-Thérèse, juste en dessous de l'église Sainte-Thérèse, dans la salle Charnoz. Il y a un parking, donc c'est assez pratique, on peut facilement se garer, même si on vient de loin.
Et pour la participation, comment ça se passe?
C'est gratuit, il faut simplement s'inscrire. Le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook Parcours Alpha, espace missionnaire de Chalon.
Parcours Alpha de Chalon-Champagne, à partir du 29 janvier, 20h, 22h, du côté de l'église Sainte-Thérèse, à la salle Charnoz, c'est ça, Charnoz?
C'est ça.
Avec un accès parking au 140 avenue du Général Charles de Gaulle. Merci beaucoup, D'Antonin.
Merci à vous, bonne année.
Merci donc à Antonin Dichamp et Christopher Fausten depuis le studio RCF à Chalon-en-Champagne.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Cette semaine démarre la 8e édition des Nuits de la Lecture, un temps fort consacré à la lecture sous toutes ses formes qui se tient un peu partout en Champagne-Ardenne jusqu'à la fin de la semaine.
Du 18 au 21 janvier, plus de 750 événements organisés par les bibliothèques, les librairies et les associations engagées dans la promotion de la lecture sont proposés sur tout le Grand Est pour partager le plaisir de lire. Bonjour Delphine Kérosbary.
Bonjour.
Meilleurs vœux à vous.
Meilleurs vœux également.
Merci. Nouvelle édition qu'on va présenter dans un court instant, un temps fort dédié à la lecture sous toutes ses formes. Présentez-nous cet événement. Original, on peut le dire.
Oui, c'est un des temps forts qui permet de parler du livre et de la lecture. C'est la 8e édition de ces Nuits de la Lecture qui donc ont lieu en janvier, un mois froid où les nuits sont longues, qui est sans doute propice également à la lecture. Et c'est vrai que édition après édition, on a de plus en plus de participants et une grande diversification. C'est-à-dire qu'au départ, c'est surtout les bibliothèques qui se sont emparées de ce rendez-vous, qui rappelle par exemple les Nuits des Musées dans un autre domaine culturel. Et puis également les librairies qui sont de plus en plus nombreuses à y participer, mais également les établissements scolaires. On a beaucoup d'écoles, de collèges qui font un temps fort pendant les Nuits de la Lecture sur le plaisir de lire.
Finalement, est-ce bien de lire le soir?
Alors, je pense que tous les moments sont bons pour lire. Alors, bien sûr, peut-être choisir ce qu'on lit le soir pour que ça soit propice à l'endormissement et pas, voilà, peut-être pas des choses avec des suspenses insoutenables qui font que nous continuons à lire durant toute la nuit au détriment de la forme au petit matin. Mais non, je pense que c'est bien, notamment pour les enfants, d'avoir un rituel d'endormissement autour d'un livre, qui est quand même une activité plutôt calme, partagée, douce. En tout cas, moi, je recommande la lecture, mais en ne se limitant pas, bien sûr, à la période du soir.
Delphine Kérosbary, 8e édition des Nuits de la Lecture, sur le thème du corps cette année.
Oui, tous les ans, le Centre National du Livre, qui est l'opérateur qui coordonne cette opération pour le ministère de la Culture, choisit un thème. Et cette année, effectivement, en clin d'œil aussi aux Jeux Olympiques et à cette année qui va être résolument sportive, c'est le thème du sport qui a été choisi et qui le thème pardon des corps qui a été choisi et qui se prête à beaucoup de déclinaisons. On a par exemple des animations autour du tatouage en Haute-Marne et puis on a aussi des choses sur la mythologie et la métamorphose, le changement du corps dans les Ardennes ou des choses justement sur le sport. C'est vraiment un sujet qui est très porteur et qui permet de le décliner de mille façons différentes. Et on voit bien que les acteurs culturels cette année se sont emparés de cette grande diversité.
Plus de 750 événements recensés dans la région Grand Est. Qu'en est-il de l'ex-région Champagne-Ardenne ?
Alors justement, cette pluralité de propositions, on a recensé plus de 150 rendez-vous sur les quatre départements de Champagne-Ardenne, avec des choses qui sont vraiment déjà sur les quatre jours, parce que les nuits de la lecture, on dit bien les nuits de la lecture au pluriel, au départ ça a été la nuit de la lecture et c'était un samedi, et puis aujourd'hui, en fait, cette manifestation, elle se déroule sur plusieurs jours, du 18 au 21 janvier, c'est-à-dire un jeudi, un vendredi, un samedi et un dimanche. Et on a des propositions sur ces différents créneaux. C'est aussi des propositions qui sont plus ou moins ouvertes au tout public, qui ont aussi des publics parfois précisés. Hein, s'il y a des manifestations jeunesse, il y a des manifestations adultes. On a par exemple des propositions aussi que le tout public peut pas voir, par exemple dans le quartier des mineurs à Reims, à la maison d'arrêt. On a des choses qui se passe en établissement scolaire, donc qui ne sont pas toujours ouvertes au grand public. Le programme permet de voir tout ça, de voir également s'il y a des réservations, quelle est la jauge, parce que pour garder aussi un côté un peu intime, un peu privilégié, parfois ces manifestations sont pour 15-20 personnes, 30 personnes, et c'est sur inscription. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la première chose à voir. Après, on a des propositions de jeux, d'escape game, de contes, de lecture, de spectacle, des rencontres avec des auteurs aussi, des poètes, des écrivains, sont parfois au menu.
Alors Delphine Quireux-Esbaï, on va justement parler peut-être de ces temps forts, entre guillemets, ces événements marquants dans notre territoire Champagne-Ardenne, notamment du côté de la Marne, un rendez-vous assez exceptionnel et original du côté du CNAC à Châlons-Champagne.
Oui, c'est le CNAC, donc le Centre National des Arts du Cirque, c'est un bon exemple, puisqu'on voit qu'on a là un établissement qui n'est pas spécialisé sur le livre et la lecture et qui propose pourtant des lectures en mouvement. Autour de cette notion du corps. Dans le même département, à la Bibliothèque de Reims, on a tout un programme sur la journée du samedi, avec par exemple un fitness littéraire, avec une dictée, avec des lectures décalées et résolument sportives. Et toujours dans la Marne, pour illustrer le fait que des libraires se sont emparés de la manifestation, la librairie Amaury à Reims propose aussi un spectacle lecture participative qui s'appelle Corps et Accords et qui a lieu le dimanche. Donc avis pour ceux qui ne sont disponibles que le dimanche après-midi.
Qu'en est-il du département des Ardennes ?
Alors, beaucoup de propositions également dans le département des Ardennes. Ont retenu mon attention à la bibliothèque de Maubert-Fontaine, qui vient juste de rouvrir dans des locaux agrandis. Tout un programme autour du corps. Alors, avec une rencontre, par exemple, avec une autrice qui a écrit sur le corps des femmes, sur les maladies et la santé des femmes. Et puis, ça s'accompagne également d'ateliers massage, d'ateliers d'art-thérapie autour de la danse, ou d'une Olympiade en 12 épreuves qui combine donc lecture et sport. J'avais noté également à Juniville des lectures sur la mythologie grecque et les métamorphoses d'Ovide, ou encore à Béron une médiathèque également très dynamique qui propose des jeux pour retrouver des os qui permettent de reconstituer un squelette. Beaucoup de dimensions ludiques hein, dans ces propositions.
Tout à fait. Et d'autres rendez-vous qu'on ne peut pas citer parce que le temps passe très très vite, que ce soit dans les Ardennes, dans la Marne, dans l'Aube ou dans la Haute-Marne, le programme complet à retrouver bien évidemment sur le site officiel de l'événement Nuit de la Lecture avec un Nuit avec un S, on vient de le dire il y a quelques instants puisque ça va se dérouler sur plusieurs jours. Nuitdelalecture.fr. Merci beaucoup Delphine Kéreuesbach d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, conseillère pour le livre et la lecture, les archives et la langue française à la DRAC du Grand Est. Encore une fois, bonne année à vous et à très bientôt sur RCF.
Au revoir.
Merci Christopher Fausten, site internet nuitdelalecturetoutattaché.fr. Attention demain, neige et verglas. Dans quelques instants, le journal de 19h. Bonne soirée.